Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà donc pour cette histoire, et je suis avec Maître Gérard Desplanques du barreau de Perpignan. Maître, vous défendiez dans ce dossier, au cours des deux procès, les intérêts des enfants de Jocelyne et de Jean-Claude. Alors le verdict, confirmé en appel, il semble consacrer une légère hiérarchie des responsabilités entre les deux, en rôle de leader à Jean-Barthélemy Radkeber, en rôle de suiveur à Fouad Selam, mais à peine en fait, parce qu'entre 30 ans et perpète, il n'y a pas une immense différence.
Mais vous avez dit vous-même que Selam était un suiveur. Ça n'est pas ressorti du tout à l'audience. On a simplement constaté que Selam était peut-être un petit peu plus intelligent que Radkeber, et Radkeber était brut de décoffrage. Hein. C'était un gitan qui avait quand même une certaine expérience de la vie, et d'ailleurs, c'est lui qui apparemment a tout imaginé, mais Fouad Selam n'a rigoureusement rien dit et ne s'est absolument pas opposé au plan abominable de Radkeber.
Votre avis est qu'il n'y a pas de différence de responsabilité entre les deux?
Juridiquement, il y a une différence de responsabilité, puisque la cour d'assises à deux reprises a distingué en quelque sorte le comportement de chacun. Mais pour moi, enfin le ressenti que j'ai eu à l'audience, tant à Carcassonne qu'à Perpignan, c'est que nous avions quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, c'est l'âme, et Radkeber qu'il était beaucoup moins. Mais en tout cas, celui qui a organisé, qui a mis en place toute cette affaire, c'est bien Radkeber.
Il faut qu'on parle de ces deux hommes. Vous les avez vus par deux fois à la cour d'assises. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'hommes, je dirais, bas de plafond, quoi? Un peu primaires?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Radkeber est un gitan, plus exactement un manouche. Hein. Donc, c'est pas du tout pareil. Et Radkeber, il a l'intelligence, en quelque sorte, de son activité. Il était maçon, il voulait donc gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, eh bien, tous les moyens étaient bons. Alors, évidemment, là, il s'est trouvé dans une situation telle qu'il a eu peut-être une opportunité, en tout cas, il a vu une opportunité. Par contre, Selam est tout à fait différent. Selam est très intelligent et même cultivé, puisqu'il nous a quand même un peu surpris à l'audience, tant à Carcassonne qu'à Perpignan, puisqu'il s'exprimait correctement, il disait à la cour quel était son ressenti. Vous savez, ça fait plus de 50 ans que j'exerce cette profession. Je pense qu'il s'agit bien de personnages qui ne considère pas les gens comme des gens. Il les considérait comme des choses. Et d'ailleurs, ils l'ont pratiquement dit à l'audience. Les Saint-Aubert étaient pour eux des choses.
C'est-à-dire, vous me dites que Selam n'est pas quelqu'un qui se fait embobiner par un type qui est quoi, plus costaud que lui, plus parleur, plus beau parleur que lui?
Non, Radkeber avait, lui, l'entreprise, et Selam, eh bien, était le suiveur, mais dans le travail. Mais c'est vrai que autant on a vu un Radkeber qui était un peu effacé à Perpignan, autant on l'a vu un petit peu plus gaillard devant la cour d'assises de Carcassonne, mais autant Selam, lui, s'est exprimé. C'est-à-dire qu'il s'agit de maghrébins bien implantés, bien installés et qui manient la langue française d'une manière remarquable. Et c'est ce qui nous a quand même un peu surpris. À la limite, si Selam avait été le suiveur qu'il a toujours dit, eh bien, je pense qu'il aurait eu beaucoup moins. Mais son comportement à l'audience a fait penser aux jurés qu'il n'était pas l'instigateur, mais enfin, en tout cas, il était bien complice. Il était co-auteur, comme l'a dit l'avocat général.
À plusieurs reprises dans mon récit, j'ai employé le mot de barbare. Oui. Alors, est-ce que la notion aggravante d'acte de barbarie a été retenue? Non.
Non, pas du tout, mais l'appréciation, l'appréciation que vous avez donnée, elle est effective. Je vais vous faire une confidence. Lorsque nous avons été avec Madame Bataille, qui était le juge d'instruction, qui a magnifiquement d'ailleurs mené son instruction, eh bien, avec Madame Bataille, nous avons eu une reconstitution à 11h du soir et jusqu'à 4h du matin. Eh bien, je peux vous dire que j'étais malade, hein. J'en étais malade et pourtant j'ai vu pas mal d'affaires, mais rien que d'imaginer un petit peu cet homme qui croulait sous les coups de 22 longs rifles, il y en a eu 9 je crois, et qui devait crier au fond de son trou sur lequel on a jeté une très grosse pierre, parce qu'on parle d'une pierre, mais c'était une très grosse pierre, et il fallait avoir une certaine force pour la porter et pour lui jeter sur la tête, et il criait certainement encore. Je pense que ça, c'est assez horrible à entendre.
Et puis, Jocelyne était dans la camionnette.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est-à-dire qu'elle a vécu ça par le son.
Voilà, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Jocelyne était dans la camionnette. Bon, elle a tout entendu. Et elle a effectivement supplié Radkeber et Fouad de la laisser partir. Mais ce sont des gens immondes. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Il tape à coups de pelle sur la tête de cette femme.
Alors là, oui.
Qui a 59 ans, qui n'est pas... qui est une femme, qui est une femme voilà, légèrement âgée, et ça ne les gêne pas deux secondes de l'achever à coups de pelle, quoi.
Non, non, non. Ils l'ont mise à genoux. Ils l'ont poussée avec le pied pour qu'elle dévale le ravin. Ils ne savaient même pas si elle était morte ou non, alors qu'ils lui avaient quasiment décollé la tête.
Oui, car on retrouve la tête sectionnée, et ça n'est pas que le fait des animaux qui ont dévoré le corps.
Ah, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Celui qui a fait ça, je pense que c'est Radkeber, hein, il n'a pas du tout frappé avec le plat de la pelle, il a frappé avec le tranchant de la pelle. Et c'est pour ça que la tête s'est décollée. Vous imaginez un petit peu, on est arrivé à 2h du matin à peu près, bon, en plein hiver, en reconstitution, sur les lieux, c'était épouvantable, épouvantable d'imaginer les souffrances que cette femme a pu endurer après avoir entendu les souffrances de son mari.
Et eux, pendant la reconstitution, est-ce qu'ils sont émus, touchés? Est-ce qu'ils expriment des regrets?
Oh non,
est-ce qu'ils constatent l'énormité de ce qu'ils ont commis?
Non, d'abord, ils se rejetaient la balle, hein. Radkeber a accusé Fouad et Fouad a accusé Radkeber, dans les deux cas d'ailleurs. Et ils ont été complètement impavides. Hein. Ce sont des monstres. Hein.
Est-ce qu'à aucun moment d'ailleurs pendant le procès, ils prennent conscience de l'énormité au regard en plus des sommes qu'ils ont extorquées, c'est-à-dire 13 189 euros et un centime? Est-ce qu'ils se rendent compte du hiatus ou pas du tout, à aucun moment?
Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Ils sont très occupés à essayer de défendre leurs intérêts. Bon, leurs avocats, ils ont été brillants, hein, mais ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais avec des monstres pareils, qu'est-ce que vous voulez faire?
Ils se connaissent depuis longtemps, Selam et Radkeber, ou est-ce que c'est une rencontre récente?
C'est une rencontre récente. Non, non, non. Ils cherchaient du travail, Fouad, tout simplement.
Ils sortaient de prison, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça, il sortait de prison. Et d'ailleurs, il avait été en prison. Je me demande si c'est... Oui, oui, autant que je me souvienne, il était en prison et il était en permission lorsqu'il a fait ça.
D'accord.
Qu'on l'a retrouvé après en prison, il y était déjà.
Il y était déjà.
Eh oui.
Au moment où on l'arrête. Au deuxième procès, je l'ai raconté, Fouad Selam présente ses excuses à la famille. Comment est-ce que c'est reçu par vos clients et par vous-même, maître?
C'est grotesque. Grotesque. Quand on est un animal comme ça, on ne se permet même pas de présenter des excuses. C'est impossible. C'est comme si les tortionnaires du Troisième Reich allaient présenter des excuses aux enfants qu'ils ont tués.
Le moment, vous vous en souvenez?
Ah bah, toujours pareil. C'était juste avant que la cour se retire.
C'est au moment où on dit, avez-vous quelque chose à ajouter?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est un conseil d'avocat, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui, c'est pas un conseil d'avocat. Vous allez nous voler nos petits secrets.
Est-ce que on a le début de la clé d'une explication de cette misère morale chez ces deux hommes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur histoire personnelle, dans leur curriculum vitae, qui puisse expliquer qu'ils n'aient pas connaissance de la valeur d'une vie?
Non, non. Non, non, je pense que d'ailleurs, j'aurais dit en plaidant, hein, à Carcassonne et à Perpignan, s'ils s'étaient contentés de les séquestrer et de prendre leur carte bleue, mais ils prenaient trois ans de prison, pas plus. Vous comprenez? Mais ça ils n'en avaient pas conscience. À la limite, il aurait fallu qu'ils consultent un avocat avant de commettre leur méfait. Je pense qu'il y a un comportement chez ces gens-là qui est un comportement plus que primaire.
Merci, Maître Desplanques, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire qui date donc de 2008.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.